La carte Visa Orange Monnaie, retrait et paiement dans toute la zone UMOA, en partenariat avec la Banque Atlantique, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
François Mazet.
Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Cet appel sur l'actualité, votre émission d'explication de l'actualité pour mieux comprendre le monde, pour débattre aussi. Dans une demi-heure, nous évoquerons ainsi la présidentielle en Tunisie. C'est dans un mois, tout juste, le 15 septembre prochain. Il y a eu de multiples candidatures pour succéder à Béji Caïd Essebsi, récemment décédé. Finalement, 26 dossiers ont été validés hier par l'instance électorale sur plus de 90 dossiers déposés. Alors cette pléthore de candidats est une bonne nouvelle selon vous, une preuve de vitalité de la démocratie tunisienne avec notamment beaucoup d'indépendants, ou alors est-ce plutôt un dévoiement du système électoral, faute de personnalité de consensus, de dilution des ambitions? Vous nous donnez votre avis par téléphone 33 9 693 693 70, vos messages sur WhatsApp 33 6 89 28 53 64 et sur la page Facebook de l'émission Appel sur l'actualité. Mais d'abord, comme chaque matin, nous tâchons de répondre aux questions que vous vous posez sur l'actualité. On commence à Kinshasa avec Ali Dor. Bonjour.
Bonjour François Mazet, bonjour à tous les auditeurs de RFI et à votre technicien du jour.
Ali Dor, vous avez des questions concernant l'affaire Jeffrey Epstein.
Absolument. Après avoir été inculpé d'agression sexuelle sur des mineurs, le corps du financier américain Jeffrey Epstein a été trouvé inerte samedi dernier dans sa cellule pénitentiaire à New York où il attendait effectivement son procès. Et du coup, plusieurs flous me poussent à savoir, à poser quelques questions. D'abord, dans une prison si sécurisée, comment expliquer cet acte présumé de suicide?
On va le demander à Jean-Éric Brana. Bonjour.
Bonjour François.
Merci de votre présence. Vous êtes enseignant à l'université Panthéon Assas et spécialiste des États-Unis. Alors les circonstances du décès de Jeffrey Epstein tournent à l'affaire d'État aux États-Unis avec de multiples théories complotistes qui circulent. Que sait-on exactement sur ce qui s'est passé et à qui la faute finalement?
Alors si j'avais cette réponse-là, vous alliez me donner un grand prix, puisque pour l'instant, on ne sait quasiment rien, ou plutôt on sait tout et son contraire. Ce qu'on peut dire, c'est que d'abord, même si la prison est sécurisée, ça n'empêche pas les suicides, et les suicides sont monnaie courante, si on peut dire, dans les prisons américaines, comme elles le sont dans les prisons du monde entier d'ailleurs. C'est vrai que dans le cas d'Epstein, il était mis à l'isolement, on va dire, pour sa protection, à savoir qu'on avait retiré de sa cellule tout ce qui pouvait être utilisé pour suicider. Alors, il n'y avait pas d'objet pointu, il n'y avait rien qui peut être utilisé pour former un nœud par exemple, et il était même prévu des visites régulières pour surveiller toutes les demi-heures qu'il était toujours en vie. Tout cela n'a pas empêché sa mort effectivement, et aujourd'hui l'enquête ne fait que commencer. On en est à se demander où sont passées les bandes vidéo pour pouvoir voir si personne n'est rentré dans cette cellule avant qu'il meure. Mais plus globalement, on va dire que l'état des prisons américaines n'est quand même pas bon. Elles sont généralement vétustes, avec une surpopulation flagrante qui va quelquefois au double de la capacité, un personnel qui est vraiment insuffisant, avec des heures supplémentaires qui sont imposées à ce personnel. C'était le cas pour ceux qui étaient à la surveillance d'Epstein. Ça va souvent jusqu'à 60 heures par semaine, 12 heures par jour, et tout le monde est bien fatigué. Tout ça explique cela. Maintenant, c'est vrai que ça n'empêche pas le complotisme, et imaginez que Epstein a pu être assassiné, il faut dire le mot. D'ailleurs, l'autopsie ce matin a révélé que sa mort n'était pas incompatible avec une strangulation, même si la pendaison était toujours possible. Donc l'autopsie ne va rien résoudre, et on en est encore dans l'expectative, bien sûr.
Ali Dor, vous avez d'autres questions pour Jean-Éric Brana?
Absolument. Le président américain Donald Trump est également réputé proche de cette victime. Et du coup, pourrait-il être directement concerné par cette affaire? Et en conséquence, est-ce qu'il y a aussi d'autres personnalités qui pourraient être impliquées?
Alors Jean-Éric Brana, tous les deux sont milliardaires, new-yorkais, fêtards et voisins en Floride. Donc Jeffrey Epstein et Donald Trump se sont fréquentés. Est-ce que cette affaire peut éclabousser jusqu'au bureau ovale?
Alors, tel que vous l'avez présenté, je suis tenté de vous dire oui, mais il vous a pas échappé depuis 4 ans, ni à vous, ni à Leader, ni à tous les auditeurs, que Donald Trump n'est quasiment jamais éclaboussé par rien, puisqu'il est, il a une stratégie quasiment imparable, c'est qu'il attaque le premier. C'est-à-dire ce qu'il a fait cette fois-ci. Or, la liste des amis d'Epstein, on peut l'allonger, on peut nommer Bill Clinton, Tony Blair, Kevin Spacey, le prince Andrew, Charlie Rose, Woody Allen, et on pourrait continuer comme ça quasiment toute la journée. Toute la jet set était amie avec Epstein, c'est-à-dire tous les gens que l'on connaît, du cinéma, du sport, des affaires, tous ces gens riches et puissants ne sont pas tous passés par l'île d'Epstein, mais en tout cas, on les a tous vus à un moment en sa compagnie. On publie des photos, il y a des témoignages. Donc c'est vrai que c'est très compliqué et que tout cela rajoute là aussi dans les fameuses théories du complot dont on parlait tout à l'heure, parce qu'on dit que quelque part, il fallait faire taire Epstein pour qu'il n'y ait pas de procès et que tous ces gens-là puissent être échappés à la justice. Et c'est bien là le drame de toute cette affaire, c'est que les victimes, qui elles sont réelles, qui sont identifiées aujourd'hui, c'est ce système qui est réel aussi, de prostitution, de pédophilie. On se dit qu'il n'y aura jamais de coupable avéré, jamais de coupable puni en tout cas, même s'il y a des complicités qui seront mises à jour et qui seront peut-être punies, ce ne sera pas à la hauteur de ce qu'attendent les victimes. Et c'est bien là, encore une fois, le drame de cette affaire.
Merci Jean-Éric Brana et merci à Alidor qui était avec nous à Kinshasa ce matin. On traverse le fleuve pour retrouver Didas à Brazzaville. Bonjour.
Bonjour, François Mazé.
Didas, fidèle auditeur de RFI et d'Appel sur l'actualité, que voulez-vous savoir ce matin?
Alors, nous avons suivi à RFI que le Kenya est candidat pour être membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cela m'amène à vous poser quelques questions. Qu'est-ce qui motive cette décision, François?
Alors, on va le demander à Chloé Morel, qui saura mieux vous répondre, historienne à l'École normale supérieure et spécialiste des Nations Unies. Bonjour.
Bonjour.
Alors déjà, brièvement, oui. Pouvez-vous nous rappeler comment fonctionne le Conseil de sécurité et quelle est la présence africaine?
Alors, il y a 5 membres permanents, la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine et la Russie. Et il y a 10 membres non permanents du Conseil de sécurité qui sont élus pour un mandat de 2 ans. Et donc, parmi ces 10 membres non permanents, il y a 3 sièges pour l'Afrique. Donc, parmi les membres actuels du non permanent du Conseil de sécurité, il y a l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale. Et le Kenya brigue actuellement un siège non permanent au Conseil de sécurité pour 2021-2022 et le vote aura lieu dans un an, à peu près en juin 2020.
Alors pourquoi le Kenya veut retourner sur ce siège déjà occupé en 1973 et en 1997?
Alors la motivation du Kenya, ce serait de s'affirmer dans la région Afrique de l'Est et notamment par rapport à son rival la Somalie, avec lequel il est en conflit, notamment un conflit maritime entre le Kenya et la Somalie, en fait parce que les deux pays se disputent une zone maritime pétrolifère, il y a déjà cette raison-là, et aussi par rapport aux chebabs somaliens qui nuisent au Kenya.
Ouais, les Kenyans veulent voir les chebabs inscrits sur la liste des organisations terroristes, ce qui n'est pas le cas pour l'instant.
C'est ça. Et donc, ça, c'est une des raisons très importantes pour le Kenya, pour s'affirmer comme ça par rapport à la Somalie, mais aussi pour s'affirmer comme un État qui pèse à l'ONU, parce que déjà, le Kenya bénéficie sur son sol, à Nairobi, de plusieurs institutions onusiennes, comme le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Il y a à Nairobi un office des Nations Unies en Afrique qui est important. Et être au Conseil de sécurité, ça permettrait au Kenya de s'affirmer comme un État important au niveau de l'ONU et cela lui bénéficierait.
Didas, vous avez d'autres questions?
Oui, François. Et quelle chance le Kenya a-t-il pour être élu membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies? Et quels pays soutiennent cette candidature du Kenya?
Alors, Chloé Morel, le Kenya a mené une intense campagne de lobbying diplomatique. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que le Kenya a de bonnes chances d'être élu l'année prochaine?
Oui, je pense. Par exemple, le Kenya s'efforce d'avoir le soutien des Émirats Arabes Unis, du Maroc. Et parmi ses concurrents, il pourrait y avoir d'autres États africains, mais justement pas l'Afrique du Sud, puisqu'elle était déjà membre actuel. Donc finalement, le Kenya paraît bien placé. C'est un pays qui a une économie dynamique, avec une forte croissance, qui est un grand producteur de thé, qui devient un pays peut-être un futur futurs pays émergents d'Afrique. Et donc, on peut penser qu'avec ses soutiens, avec cette campagne de lobbying, avec le fait qu'il ait plusieurs bureaux et offices des Nations Unies qui siègent à Nairobi, ça serait vraiment possible qu'il puisse être élu pour 2020 au Conseil de sécurité.
Mais Chloé Morel, le plus dur, c'est d'être élu ou d'avoir une véritable influence sur le Conseil quand on est là que pour 2 ans?
C'est vrai, c'est déjà dur d'être élu, mais ensuite, quand on est au Conseil pour 2 ans, il faut mener des alliances, faire des alliances, être influent, rayonner et essayer de peser sur les votes. Et ça, c'est important. Mais justement, il y a toujours la question de l'élargissement du Conseil de sécurité qui se pose, puisque... Le fait qu'il y ait ces 5 membres permanents, ces pays vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, c'est de plus en plus contesté, notamment par les pays du Sud, les pays d'Afrique, comme le Kenya.
Merci Chloé Morel d'avoir été en ligne et merci à Didas qui nous écoutait à Brazzaville. En tout cas, la diplomatie kenyane officiellement insiste sur le développement durable et le changement climatique parmi ses priorités en cas d'élection comme membre non permanent du Conseil de sécurité. On part à Abidjan maintenant avec Alphonse. Bonjour.
Bonjour François.
Alphonse, vous avez entendu sur l'antenne de RFI cette histoire, ces migrants ivoiriens déposés dans le désert en Tunisie et dont le sort a été traité sur l'antenne de RFI. Vous aviez des questions sur ce sujet?
Effectivement, 36 migrants ivoiriens auraient été déposés dans le désert tunisien, ce qui a déclenché un début de crise diplomatique entre les deux pays. D'où venaient ces migrants? Et sait-on pourquoi et comment ils ont été amenés dans ce désert?
Eh bien, on va demander plus de précisions à Laure Broulard. Bonjour.
Bonjour.
D'où venaient ces migrants et justement, pourquoi avoir été déposés à la frontière libyenne?
Alors, d'après les organisations des droits de l'homme qui ont suivi le dossier et qui ont parlé à ces Ivoiriens, ce n'étaient pas des migrants qui venaient de passer la frontière, mais plutôt des personnes qui se trouvaient en Tunisie depuis plus ou moins longtemps, et parmi eux, des étudiants venant de Tunis, des ouvriers, des femmes, mais aussi des enfants de Sfax.
Pourtant, leur identité, Laure, comme le reste de l'affaire d'ailleurs, reste très confuse.
Tout à fait. Hein. Alors, pour revenir un peu sur les différents épisodes, tout commence le 3 août. C'est à ce moment qu'un des ressortissants ivoiriens contacte la CIVAT, une association d'Ivoiriens basé en Tunisie. Il raconte son histoire, il explique qu'il s'était rendu à Sfax avec des amis pour célébrer la fête nationale ivoirienne. Il y a en effet une importante communauté ivoirienne à Sfax et donc ce jour-là, des étudiants, des mères de famille et des ouvriers ivoiriens s'étaient rassemblés pour y faire la fête et c'est à ce moment-là qu'ils auraient subi un contrôle de la police tunisienne puis qu'ils auraient été mis dans des véhicules et relâchés dans une zone désertique qu'ils ne connaissaient pas. Alors la CIVAT contacte alors les différentes organisations de défense des droits des migrants. Le lendemain, un des Ivoiriens envoie à la CIVAT une vidéo qui permet de comprendre un peu mieux où ils se trouvent. On conclura rapidement qu'ils étaient dans la zone militarisée et désertique à la frontière entre la Tunisie et la Libye. Très vite, la Ligue des droits de l'homme tunisienne et l'Organisation internationale pour les migrations se mobilisent. Sous leur pression, les autorités tunisiennes transfèrent les Ivoiriens dans des foyers de l'OIM et du Croissant Rouge à Medinine et à Tunis. Et d'après plusieurs sources, ça se passe entre le 5 et le 8 août. Et donc les Ivoiriens ont passé plusieurs jours à la frontière. En arrivant dans les foyers, certains avaient donc besoin de soins médicaux. Et puis ensuite, ils sont retournés dans leurs logements respectifs en Tunisie, que ce soit à Tunis ou à Sfax.
Alphonse à Abidjan, vous avez une autre question pour Laure Broulard.
Effectivement, quelle a été la réaction des autorités tunisiennes?
Eh bien, il n'y en a pas vraiment eu. Hein. C'est pour cela que toute l'affaire est encore très floue. Ce que l'on sait, c'est que les autorités ont annoncé le 3 août avoir déjoué une opération d'immigration clandestine à Sfax et avoir arrêté 70 personnes. Puis, 2 jours plus tard, le ministère de l'Intérieur a publié un communiqué annonçant le refoulement à la frontière tuniso-libyenne de 33 Ivoiriens et 20 Soudanais. Mais rien ne prouve à ce jour que l'une ou l'autre de ces opérations concerne les Ivoiriens de la vidéo. En tout cas, les organisations de défense des droits de l'homme travaillent actuellement à faire la lumière sur la situation pour déterminer comment ces personnes se sont retrouvées à la frontière, pour déterminer également si la Tunisie a failli à ses obligations internationales en termes de protection des droits des migrants. Et en tout cas, pour les différentes ONG à qui j'ai pu parler, c'est un épisode assez surprenant. Elles assurent n'avoir jamais assisté à ce genre de refoulement en Tunisie, si le refoulement est avéré.
Merci Laure Broulard d'avoir été avec nous. Alphonse, est-ce que vous êtes satisfait des réponses apportées?
Merci François.
Eh bien, merci alors, surtout. Bonne journée, Alphonse, qui nous écoutait à Abidjan, où il est 8h25. À Goma, il est 10h25. Bonjour, Paul.
Bonjour, RFI.
Paul, vous souhaitiez revenir sur ce fait divers survenu à Butembo, dans l'Est congolais, et sur lequel vous voulez des précisions. Nous vous écoutons.
Oui, 3 médecins congolais ont été arrêtés le début du mois, accusés d'avoir participé à l'assassinat au mois d'avril du médecin camerounais de l'OMS, Richard Muzoko, présent en RDC dans le cadre de la réponse contre la maladie à virus Ebola. Du coup, je voudrais savoir, que reproche-t-on à ces 3 médecins? Connaît-on leur mobile pour un tel acte?
On va le demander à Sonia Rollet qui est en ligne. Bonjour Sonia.
Bonjour.
3 médecins arrêtés, accusés d'avoir participé au meurtre d'un autre médecin, le docteur Muzoko, présent donc pour l'OMS. Que sait-on exactement de cette affaire, Sonia?
Alors d'abord, ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est un groupe Maïmaï hein, qui avait attaqué donc le centre de santé où se trouvait le docteur Richard de l'OMS et qui donc il a été tué, ce docteur, et on sait que les principaux accusés, et notamment l'un de ceux qui reconnaît avoir tiré, est à l'heure actuelle aux arrêts. Donc ça, c'est les auteurs principaux, on va dire, du dossier. Là, ce que l'on reproche à ces médecins, c'est d'avoir été plutôt des auteurs moraux, c'est-à-dire d'avoir été plutôt une forme de commanditaire ou d'avoir encouragé ce type d'acte. Alors, il faut savoir que ce sont en fait 4 médecins qui sont accusés. Il y en a 3 qui sont aux arrêts, mais il y en aurait un troisième qui pourrait être recherché par la justice. Et parmi ces 4 médecins, en fait, il y en a 2 dont la justice militaire dit qu'ils auraient même donné de l'argent à ces Maïmaï pour faire ces attaques contre les centres de santé, ce que ces derniers d'ailleurs démentent. Il y en a un qui est à l'étranger qui le dément, ainsi que les avocats. Et 2 autres médecins, eh bien, ce qu'on leur reproche, c'est d'avoir participé à une réunion en décembre et en janvier, une réunion où il aurait été dit qu'il fallait chasser les médecins étrangers. Mmh. Parce que vous savez, dans cette riposte, l'épidémie d'Ebola n'avait pas lieu avant à l'Est. Donc il y avait forcément des médecins de l'Ouest qui avaient été formés au suivi de cette maladie. Et puis également des médecins étrangers, puisqu'il y avait eu l'épidémie en Afrique de l'Ouest.
Le mobile, Sonia, ça serait une forme de jalousie du personnel médical local vis-à-vis de personnes venant de l'étranger qui seraient mieux traitées?
Voilà, alors il y avait sur le fond du problème, et on sait que c'était réel, enfin ça faisait partie des revendications réelles du personnel de santé congolais, de dire qu'ils n'avaient pas été aussi bien traités que les étrangers, et notamment du personnel local. Mais ça fait pendant des mois, on a parlé de ces problèmes-là au sein de la riposte, et ça crée des tensions au sein de la riposte. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont présumés innocents, ces médecins, et que pour l'instant, ils ne sont pas reconnus coupables de quoi que ce soit, et que les enquêtes se poursuivent.
Paul Agoma, vous aviez une autre question pour Sonia Rollet.
Ouais, ouais. Et comment réagit la communauté des médecins sur place?
Oui, parce que Sonia, ces médecins arrêtés, ils étaient bien connus de la population locale.
Oui, et c'est vrai que ça a beaucoup surpris l'ordre des médecins de Butembo, mais également d'autres médecins avec lesquels j'ai pu parler à Butembo également, qui ne pensent pas ou qui n'arrivent pas à croire les accusations de la justice militaire, et tout simplement qui pensent que c'est un nouveau coup monté contre le personnel soignant local, parce que c'est vrai que depuis des mois... c'est ce que disent en fait les communautés locales, elles ont l'impression que cette riposte se fait un peu en dehors d'eux. On a vu que la riposte essayait de faire de plus en plus d'efforts, et notamment avec le nouveau plan stratégique du docteur Muyembe, pour essayer de justement inclure les communautés locales. Mais comme je vous l'expliquais, c'est un tout petit peu difficile cette situation, puisqu'auparavant, les épidémies ne se déroulaient pas dans cette partie du pays, mais à l'ouest ou en Afrique de l'Ouest, et que donc les personnels étaient mieux formés en Afrique de l'Ouest, et dans l'ouest du pays, et pas dans cette région du pays, mais à l'heure actuelle, beaucoup de gens sont formés pour suivre l'épidémie.
Donc en quelques mots, il s'agirait de discréditer le personnel local?
En tout cas, ils attendent les preuves des accusations de la justice militaire. Alors on sait qu'ils ont reporté leur grève sèche, mais on sait aussi qu'ils sont toujours pas contents et qu'ils attendent effectivement que la justice militaire fasse les preuves de ces accusations contre des médecins qui sont parmi les plus importants de Butembo.
Merci Sonia Rollet, on suivra ces prochains développements avec vous. Et merci à Paul, vous restez fidèle à RFI, à Goma.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.